Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bienvenue sur Terre, nous sommes le 30 décembre, ça commence à faire. Plus de 40 ans d'albums et aussi de tubes. Louis Chédid, l'artisan de la chanson, paroles et musique, est notre invité dans une dizaine de minutes. Il a sorti en février un album, Tout ce qu'on veut dans la vie. Et il rêve de pouvoir tourner sur scène. Je crains qu'il ne faille encore patienter. Damien Caprespin va lui tirer le portrait. Louis Chédid avec nous d'ici une dizaine de minutes. Indispensable. La semaine littéraire de Nicolas Caro. Pourquoi pas un livre audio, John Grisham, dans vos oreilles. Et puis, première page, vous découvrez ce matin le début du prochain roman signé Olivier Adam, Tout peut s'oublier, apparaître chez Flammarion. Et puis, bien sûr, la série des séries des Baroques Royales. Culture Média jusqu'à 11h. Belle matinée à vous. Et c'est tout de suite, on ne va pas attendre la série des séries des Baroques. Déjà l'épisode 5, ça file vite, c'est ça les bonnes séries. Ce matin, place à une série en cours qui est déjà devenue un classique et même un classical. Bonjour Eva.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
What's your clue, VF? Quel est votre indice ce matin?
Une tête de cerf. Une tête de cerf empaillée est fixée au mur de la salle à manger du château de Balmoral, la résidence écossaise de la famille royale, un des décors de la série The Crown. La bête a été tuée quelques jours auparavant, non loin de la propriété, par Philip Mountbatten, l'époux d'Elisabeth II. Le duc d'Édimbourg a appuyé sur la gâchette au moment parfait, aidé par une jeune femme couchée dans l'herbe à ses côtés, à guetter le cerf. Diana Spencer, future Lady Di.
D'où vient le vent? De la droite?
Je dirais de la gauche, monsieur.
Quoi?
Regardez les nuages.
Le vent tourbillonne. Il vient de la droite.
De la gauche. Beau tir, monsieur. Le vent venait de la gauche.
Diana, chasseuse avant de devenir Diana, la chassée avec une meute de paparazzi à ses trousses en permanence. C'est le symbole de cette quatrième saison de The Crown. Les 10 épisodes de la série signée Peter Morgan continuent de reconstituer la vie de la famille royale, cette fois-ci entre 1977 et 1990. Cœur de l'intrigue, donc l'histoire d'une relation impossible entre Diana Spencer et le prince Charles.
Oui, impossible vraiment. Hein.
Ouais, presque. Ah oui, c'est vraiment impossible. Hein. Si on s'en tient à la série, en tout cas.
Hein. Ils n'ont rien à faire ensemble.
On est bien d'accord.
La série a toujours traité à la fois la vie de la famille royale et la vie politique de la Grande-Bretagne. Et cette période est marquée par l'arrivée de Margaret Thatcher.
Exactement, Pascal. Cette quatrième saison n'est pas la rubrique People et royauté de point de vue image du monde. C'est une photographie du Royaume-Uni dans l'intimité de la famille royale, mais aussi du 10 Downing Street. Deux mondes réunis lors des entrevues privées entre la reine et son premier ministre, alors en l'occurrence sa première ministre, deux femmes à la tête d'un pays. En revanche, le gouvernement ne compte aucune femme, et pour cause.
Je suppose qu'il n'y a pas de femmes.
Des femmes.
Au gouvernement.
Oh, certainement pas. Non pas seulement parce qu'il n'y a pas de candidate adéquate, mais aussi parce que j'ai constaté que les femmes, en général, n'étaient pas adaptées aux hautes fonctions.
Et pourquoi cela?
Eh bien, elles peuvent se montrer trop émotives.
Je doute que vous ayez ce problème avec moi.
Et dans la peau de la dame de fer, Pascal, une actrice que nous adorons toutes les deux, Gillian Anderson. Quelle composition, tout à fait détestable à souhait, touchante parfois. Elle est Margaret Thatcher, autant que la jeune Emma Corrine et Lady Di. L'actrice sidère par sa ressemblance et son mimétisme dans cette saison flamboyante, au cours de laquelle, une fois encore, la réalisation se distingue par son souci du détail. Chaque plan devient quasiment une œuvre picturale.
Comment les critiques ont-elles accueilli cette nouvelle saison ?
Alors, avec beaucoup de scepticisme, voire d'acrimonie, en tout cas en Grande-Bretagne, les tabloïds anglais se sont lancés dans des opérations de décryptage pour déceler le vrai du faux. Oublions que The Crown est une fiction et pas un documentaire. Les 4 saisons de The Crown sont disponibles sur Netflix. La série, elle a cette qualité de mêler l'histoire intime des puissants à la grande histoire, un exercice de haute voltige que le réalisateur français, François Vell, a tenté avec De Gaulle, L'éclat et Le secret, sans y parvenir réellement à mon sens, mais la série en 6 épisodes avec Samuel Labarthe dans la peau du général mérite le détour, elle est disponible sur France.tv.
Verrait-on le général de Gaulle? Allez écouter les podcasts des baroques, série Land sur Europe1.fr et sur toutes les plateformes, moi je suis sûre que oui. Merci Eva, à demain.
À demain.
Et demain, quelle série? Eh bien, vous verrez bien. Voilà, vous avez compris qu'on vous le cache et qu'il s'agit de tenter de le deviner, de deviner son titre. C'est l'interactivité. Musique, il sera avec nous dans quelques minutes.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
C'est parfois pas si compliqué dans la vie. Vous venez d'entendre la chanson de Louis Chédid, « Tout ce qu'on veut dans la vie, eh bien qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace ». Peut-être que c'est ça une bonne chanson universelle et prémonitoire. Bonjour Louis Chédid.
Bonjour, bonjour Pascal.
Merci d'être avec nous en direct ce matin dans Culture Média. Je ne sais pas si ça va beaucoup vous consoler, mais votre album, pas seulement ce titre-là, prend un relief inouï grâce ou à cause du Covid. Vous réalisez ça ?
Oui, j'ai réalisé parce que je vous avoue, quand l'album est sorti le 28 février, et puis trois semaines après, il y avait le confinement et tout, et je me suis dit, oh là là, ça va faire bizarre aux gens d'entendre qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace. Et puis en fait, c'est le contraire qui s'est passé, et ça m'a beaucoup touché en fait. C'est un peu le fantasme
général
de beaucoup de gens aujourd'hui, de se dire vivement le moment où on pourra reprendre nos bonnes habitudes de tactile, disons.
Mais alors, pourquoi écrivez-vous ça? Je ne sais pas, il y a combien de temps? Enfin, il y a probablement des mois, voire peut-être une année, j'en sais rien.
Oui, disons 2 ans, oui.
2 ans, oui. Et quand ça arrive...
Parce que c'est ce que je pense... Parce que c'est ce que je pense. De toute façon, moi, je pense que la chose la plus vitale dans la vie, c'est ça, quoi. C'est d'être. C'est les sentiments et les émotions que peuvent dégager les gens les uns par rapport aux autres. C'est ça la chose la plus intéressante et la plus enrichissante. D'abord, c'est les autres. On s'enrichit en parlant avec les gens, en discutant et en ayant. Des rapports parfois fraternels, parfois amoureux, etc. Voilà, c'est la seule chose valable dans la vie, c'est ça, quoi, la chose la plus importante.
Non mais bien sûr, mais on peut évoquer les sentiments, ce que vous ne vous privez pas de faire dans cet album. Mais là, juste, voilà, c'est tactile, les sentiments tactiles, et c'est ça qui est
absolument
troublant.
Absolument.
Ouais.
Mais parce qu'en fait, je suis aussi, moi c'est mes origines qui sont comme ça, c'est-à-dire que je suis oriental, et les orientaux, vous savez, ils sont très bisouteurs, etc. On est très comme ça, donc... C'est une espèce d'habitude, et c'est vrai que aujourd'hui, d'avoir des gens avec des masques devant soi, de plus voir les sourires, etc. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup, parce que j'ai eu la chance de faire quelques concerts quand même dans tout ce marasme, mais j'en ai fait une dizaine, et donc je chantais devant des gens masqués, et je me disais, ça va être compliqué quand même, ça doit pas être très chaleureux, et en fait, bizarrement, ça l'était encore plus, j'ai trouvé, qu'un concert normal, parce que tout le monde avait besoin d'exprimer plus par le corps, physiquement, ce qu'il ressentait, et on a fait des concerts formidables.
Mmh. N'empêche que votre tournée est empêchée, comment voyez-vous les choses? Plutôt Olympia le 11 janvier, ça risque d'être juste, ou alors plutôt Olympia
je crois que ça va être très juste.
Ou alors le 6 avril, les 2 dates étaient prévues, bon.
Voilà, normalement on devrait faire le 6 et le 7 avril, je pense.
Ouais, du coup, vous faites glisser la date, ce que vous n'avez cessé de faire.
Voilà, hein. Voilà. Mais de toute façon, on a déjà porté, je rends grâce à mon producteur de spectacle et aux personnes avec qui il travaille, parce qu'on a déjà porté 4 fois, et on change sans arrêt les choses, etc. C'est compliqué, c'est très compliqué, mais de l'autre côté, il y a des choses encore plus compliquées. Mmh. Hein, donc,
Est-ce que vous faites partie des artistes qui enragent quand même, Louis Chédid?
Alors, il y a certaines choses qui me mettent un petit peu, enfin, qui me mettent en colère dans le sens où, je pense que il n'y a pas eu un seul, ce qu'on appelle cluster dans les salles de spectacle. Il n'y en a pas eu un seul, hein. Et bon, évidemment, il n'y a pas eu énormément de spectacles.
Oui, non plus, oui.
Mais c'est vrai que les salles de spectacle respectent énormément les normes de sécurité, etc. Ils font entrer les gens les uns après les autres. Pardon, j'ai pas le Covid, mais je suis...
Et... De toute façon, on est à distance mais, pour dire la vérité, donc...
Exactement, exactement. Voilà, c'est-à-dire que ça a été vraiment extrêmement... Après, il a fallu compte tenir du couvre-feu, donc demander aux gens de venir. Moi, le dernier concert que j'ai fait, je l'ai doublé parce que, en fait, le concert a été plein et on pouvait pas, en respectant les règles sanitaires, soit on arrêtait, on faisait pas le concert, soit on le faisait deux fois. Et donc, les gens sont venus à 18h la première fois et puis à 20h ou à 19h. Bon. Enfin, je me souviens plus des horaires. On a fait deux concerts de suite, etc. C'est-à-dire que tout le monde a fait des efforts énormes. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas entendu. Ouais.
Mais en même temps, Lou Chédid, pardon, si vous bougonnez, il y a une réponse. Vous pouvez fort bien vous répondre à vous-même à travers ce refrain-là. Écoutez-vous. Bah oui, il y a toutes les réponses dans votre album, hein, Lou Chédid.
Oui, non, mais c'est sûr que, de toute façon, il faut faire... Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, hein. Je veux dire, au contraire, il faut faire attention, etc. Mais il y a des choses qui sont un peu incongrues et un peu absurdes, et voilà. Et ce qui m'a choqué aussi pas mal, c'est quand on dit que les... quand on laisse les gens prendre le métro en masse, etc., ou le TGV, ou des choses comme ça, ils se retrouvent les uns à côté des autres. Je veux dire, c'est pire qu'une salle de spectacle, mais de loin. Et en fait, on invoque le prétexte que on dit oui, mais il faut bien que les gens travaillent, et ça sous-entend quand même que nous, les artistes, et puis évidemment les techniciens, tous les gens qui tournent autour de ce métier et qui sont nombreux. Ça veut dire qu'ils foutent rien, quoi. C'est des glandeurs. C'est ça que ça veut dire, moi. Enfin, je l'entends comme ça, et ça me choque pas mal.
Bon, on va laisser le virus vivre sa vie, et puis on vous garde, vous, Lou Chédid, d'aller boire un coup, profitez-en. On revient.
On va essayer de pas le laisser vivre sa vie.
Oui, on va lui tordre le cou. Allez, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et Lou Chédid qui est dans Culture Média ce matin, auteur, compositeur, tout ce qu'on veut dans la vie. Je crois que c'est le 19e album studio de votre vie, Lou Chédid. Ça veut dire évidemment plusieurs décennies de succès. Je sais que le passé compte pas forcément pour vous, mais quand même, quand on s'y arrête deux secondes, c'est impressionnant, non, cette longévité.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'évidemment, on se construit avec tout ce qu'on a vécu, hein. C'est-à-dire donc on peut pas non plus renier son passé. Moi, j'aime bien le temps présent, quoi, surtout.
Je suis à peu près certaine que vous avez l'impression de recommencer à chaque fois.
Oui, complètement.
Vous mettez la pression ?
Ah oui, mais moi c'est ce qui m'intéresse c'est la prochaine aventure que je vais faire, c'est-à-dire soit une tournée, soit un disque, soit écrire aussi. Ça m'est arrivé d'écrire un roman et puis des nouvelles, etc. Voilà, c'est-à-dire que tous les projets, je suis en train de faire un autre projet d'enregistrement piano-voix avec toutes mes chansons et ça me passionne de faire ça. Voilà, c'est ça qui m'amuse, quoi. Et puis la chose qui est très importante pour moi, c'est d'être actuel. C'est-à-dire que vous parliez, par exemple, aujourd'hui, Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est un titre qui est sorti il y a quelques mois et qui est actuel, manifestement. Et je me suis rendu compte quand je le faisais en concert que tous les gens la connaissaient, cette chanson-là. Voilà, c'est ça, c'est d'être actuel, c'est de ne pas vivre sur l'acquis.
Mmh. On va se retourner pour vous, alors, parce que nous, on a encore certaines, enfin pas mal même, de vos chansons dans la tête. Depuis le début, il y a une espèce de simplicité et même une luminosité dans vos chansons. Bonjour, rebonjour Damien Caprespine.
Rebonjour Pascal.
C'est vrai, hein, dans les chansons de Louis Chédid, comme une légèreté apparente.
Exactement, il y a une légèreté et beaucoup de rondeur, Louis Chédid, car vos chansons sont des bulles de malice, des bulles de bonheur, des bulles d'insouciance et des bulles de douceur.
Moteur.
Vous carburez à la tendresse, vos chansons sont des déclarations d'amis. Avec vous, le quotidien se raconte en cinémascope et en technicolor.
Comme il est dit dans le scénario, trop plein de toi dans ton berceau.
Vos mélodies sont des refuges qui réchauffent les âmes. Vos textes sont limpides, immédiatement compréhensibles. Vous êtes un éternel optimiste et lorsque la vie part en toupie, vous nous racontez de belles histoires. Quand même...
T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. De cinglé.
En cas de coup de mou, en cas de coup dur, vous êtes là, Louis, fidèle et bienveillant.
Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi.
Vos chansons sont des doudous qui font du bien, mais la colère et la crainte peuvent parfois s'immiscer dans vos disques. Vous pouvez écrire des brûlots humanistes, des textes forts et poignants, mais toujours sur un air irrésistible et entraînant. Vous avez composé des mélodies pour votre pote Alain Souchon. Vous avez signé la bande originale du film Pino Simple Flic. Vous avez écrit un tube pour Françoise Hardy.
Moi vouloir toi.
Aujourd'hui, la musique chez les Chédid, elle se vit en dynastie. Un nouveau public découvre vos chansons à travers les voix de votre fille et de vos fistons. Tranquille, créateur de Soldats Roses ou chanteur taquin, vous multipliez les casquettes et vos musiques accompagnent les Français depuis maintenant presque 50 ans. Mais en fait, je dois vous l'avouer, Louis, comme beaucoup d'enfants de ma génération, j'ai grandi avec le conte musical Émilie Joly. Alors, pour moi, vous êtes et vous resterez à jamais mon raton laveur rêveur préféré.
Je rêve, je rêve, je lave beaucoup moins que je rêve. Je suis un raton laveur un peu.
Damien Caprespine, c'est pas mal, raton laveur rêveur préféré.
Ah oui.
Et
moi, ça me fait très plaisir parce qu'en fait, c'est un des disques. J'ai adoré participer à ce disque. En plus, je démarrais, j'étais assez peu connu en fait à l'époque, et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, de côtoyer Brassens, Salvador, tous les gens que je Bah, c'était mes héros, tous ces gens-là, et donc j'ai pu discuter un petit peu avec Brassens, c'est la première et la seule fois de ma vie, dans une émission de Drucker, je me souviens, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Brassens, qui avait entendu ma chanson à la radio, qui s'appelait « Je me suis fait la belle », mm-hmm, à l'époque, et qui m'en parlait, et alors j'en revenais pas, je fondais sur place.
et dire, Louis Chédid, que sous votre côté rassurant, un peu le sage, vous voyez, le calme apparent, squash quoi, vous êtes angoissé en réalité, c'est ça?
Oui, complètement. Je vous rassure, oui. oui, bien sûr. Vous savez, mais après, il y a une certaine pudeur à pas, je veux dire, se complaire dans ces angoisses et en parler tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été éduqué là-dedans. Et c'est vrai que, c'est-à-dire, je pense, j'ai pas envie de rajouter au stress. Ambiant, surtout en ce moment, par exemple, et de parler de ses angoisses et des choses comme ça, je pense que c'est pas... Je pense qu'il y a une pudeur et une politesse par rapport aux autres. Je suis pas malheureux, hein, je veux dire, je fais ce que je veux depuis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis une cinquantaine d'années, je vis comme je veux, c'est moi qui l'ai décidé, et c'est moi qui le drive, mais enfin, quand même, c'est une chance extraordinaire de pouvoir... faire exactement ce qu'on a envie de faire, d'avoir de régir sa propre discipline, etc. Donc voilà, moi je suis heureux de ça. Ça m'empêche pas évidemment de me demander de temps en temps si je vais encore arriver à faire quelque chose qui tienne la route. Et avant de sortir ce disque, je me demandais si j'allais pas être au aux oubliettes. Vous voyez, à chaque fois, hein, mais on est tous comme ça, hein, on ouais, en bah parle.
Vous l'avez
entre
la
nous,
réponse, c'est bon là,
compositeur.
Non
Comment
Vous l'avez la réponse là, ça va
Oui, là je l'ai, mais je vous dis, avant que ça sorte, je ne l'avais pas, et évidemment qu'on se pose vraiment la question. Hein.
Restez avec nous, s'il vous plaît, Louis Chédid, car après la pause sur Europe 1, nous serons en compagnie de Nicolas Caro et aussi de Paul McCartney. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Louis Chédid, vous êtes toujours là ?
Oui, bien sûr.
J'ai l'impression de faire tourner les tables. Alors, depuis le temps que vous écrivez des chansons, est-ce que vous en savez beaucoup plus, Louis Chédid ? Parce qu'on a réécouté, là, en compagnie de Damien, le portrait. Vous avez un nombre impressionnant de tubes. Est-ce que vous avez quand même acquis quelques certitudes dans le travail d'écriture, thème, mots, sonorités, je ne sais pas ?
Non, disons, alors, des certitudes, sûrement pas, mais en tout cas, et ce serait pas bien, parce que ça voudrait dire qu'il y a des trucs et et qu'on commence à avoir des tics et des choses comme ça. Et non, j'ai pas de certitudes, mais par contre, j'ai une autre façon de travailler. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, à faire des chansons, je savais pas, évidemment, il y a pas de cours là-dessus, enfin. Et j'avais rien appris, j'ai défriché le truc tout seul, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'écrivais une phrase, je voulais que ce soit la meilleure phrase possible, donc parfois je passais une semaine sur une phrase avant d'attaquer l'autre, et aujourd'hui je fais complètement le contraire, c'est-à-dire que j'écris des tas de pages, et puis je réduis ensuite, si vous voulez, donc ça me permet de garder le flux et de garder l'instinct, quoi, de pas me poser de problème, même d'écrire quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet, mais ça vous fait passer à une autre phrase, et puis voilà. Mais disons que la technique de travail a beaucoup changé. Je me fais plus confiance, ça c'est sûr, peut-être. Mais je me suis débarrassé de pas mal de choses qui me stressaient quand j'écrivais et quand je composais. Sinon c'est pareil quoi. J'ai toujours autant de plaisir à prendre une guitare et j'ai l'impression d'avoir 12-13 ans quand je commençais à gratouiller la guitare quand j'ai une guitare sur les genoux.
Ouais, au départ, ça ne nous a pas du tout inhibé d'être le fils de la grande André Chédid parce que ça aurait pu dans le travail d'écriture.
Ah si. Au niveau écriture, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à écrire parce que effectivement, ma mère étant un écrivain très très reconnu et très très flamboyant, j'hésitais à le faire. En tout cas, je voulais pas montrer ce que je faisais, etc. Et puis un jour, ça s'est débloqué. Mais j'ai mis du temps. J'ai écrit mon premier texte, je crois, vers les 20 ans, quoi. Et je faisais de la musique depuis 13 ans. Donc, vous voyez, j'ai mis quand même une bonne cette année.
Alors, on parle littérature toute la semaine dans Culture Média. C'est dommage parce que hier il y avait poésie, mais enfin bon, c'est pas grave. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour, bonjour.
Alors aujourd'hui aujourd'hui un livre audio, c'est bien
Absolument.
Ça. Signé John Grisham.
Oui, alors pardon Pascal, mais on dit l'immense John Grisham.
Désolé.
C'est le grand maître du polar judiciaire. On se souvient de La Firme, adaptée par Sidney Pollack avec Tom Cruise, L'Affaire Pélican avec Julia Roberts, Time to Kill, L'Associé. À chaque fois, Grisham, qui est un ancien avocat, s'empare d'un petit point de droit américain et il en fait une histoire géniale. Et alors son dernier, La Sentence, paru au printemps dernier chez Lattès, eh ben c'est peut-être son meilleur, voyez-vous. Et le voilà maintenant en version audio, lu par Sylvain Agaès, qui, lui, est une star des livres audio.
Ah d'accord, vous nous racontez le début de Grisham ?
C'est l'histoire de Pete Banning, le propriétaire d'une plantation de coton du Mississippi, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, héros de guerre, deux enfants, mariés, plutôt riches, tout comme il faut. Sur le papier, franchement, il est bien. On est en octobre 1946, très tôt le matin. Pete Banning est dans son lit, il n'arrive plus à dormir. Parce qu'il sait que c'est le jour J.
Le jour J de quoi ?
Attendez, il se lève donc, il prend son petit-déj et voilà ce qu'il se dit.
Pete termina son café, posa sa tasse sur la rambarde et alluma une cigarette. Il songeait à ses enfants. Joël était en dernière année à Vanderbilt et Stella en deuxième année à Hollins. C'était une chance qu'il ne soit pas à la ferme. Il imaginait déjà leur peur et leur honte quand il saurait que leur père était en prison. Mais ils survivraient, eux aussi, comme les ouvriers.
Pourquoi donc doit-il aller en prison ?
Parce que juste après avoir posé son café, il prend son Colt 45, se rend dans la ville d'à côté, il entre dans la petite église et là, il vide son chargeur sur son ami, le pasteur Dexter Bell. Oh ! Ensuite, il fait appeler le shérif, il se rend sans difficulté. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond qu'il n'a rien à dire. Et quand son avocat lui demande ce qu'il veut plaider, il répond non coupable.
Pourquoi a-t-il fait ça ?
Eh bien ça, on le saura qu'à la fin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je l'ai terminé, la version papier, il était 3h du matin, j'avais pas vu l'heure. Mais surtout, ce qui est important dans ce Grisham-là, c'est pas la fin. D'habitude, vous savez, avec ces romans, effectivement, on est tendu comme ça vers la fin, on veut savoir, on veut savoir. Dans La Sentence, bon, la fin est super, mais elle est secondaire. C'est toute la lecture du roman ou son écoute qui est complètement dingue. On est dans le sud des États-Unis, dans une plantation, avec tous les problèmes de racisme et d'injustice que ça implique. Mais on suit Pete Banning aussi dans ses flashbacks pendant la guerre. Il était dans les Philippines, prisonnier de l'armée japonaise. C'est décrit avec un réalisme fou. On a l'impression de lire un grand roman de guerre, une fresque, en alternance donc avec un bon vieux thriller judiciaire. C'est magistral.
Mais c'est quand même long un livre audio, non Nicolas?
Ah bah là, on approche les 18 heures. Oh, avec celui-là, il faut y aller par épisode. Le roman, lui, il fait dans les 500 pages.
La Sentence, donc signée John Grisham, mais en version livre audio, 18 heures et quelques. Merci Nicolas Caro, à demain. Louis Chédid, ça vous arrive d'écouter lire ? Ça vous arrive les
livres audio ? Non, ça m'est jamais arrivé.
Ouais.
C'est pas mon truc du tout ça.
Et vous allez réécrire long un de ces jours, encore un roman ou autre chose ?
Oui.
Ah,
oui,
dites-nous.
Je suis en train justement, je profite de tous ces moments d'arrêt justement pour me remettre à écrire un roman, oui. Oui.
Et deux, trois choses sur ce roman que vous pourriez nous livrer comme ça ?
Ben non, parce que... je suis désolé. Mais non, parce que c'est vraiment en état de gestation. C'est du tout...
Ouais, c'est pas le moment. Ouais.
C'est pas suffisamment avancé. Et puis tout ce que je pourrais vous dire... serait pas suffisant et puis ça sortira il y a dans longtemps quand même, en 2022 je pense, donc
si
tout va bien et si j'arrive à le finir.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Une matinée avec Louis Chédid et j'ai l'impression que vous avez beaucoup aimé, que vous aimez beaucoup en général Paul McCartney, non ? J'ai cette impression-là.
Ah, pour moi c'est mon idole, enfin je veux dire, j'ai deux idoles. C'est Chaplin et McCartney.
Mm-hmm.
Voilà.
Alors, il y en a un qui a un avantage, qui est vivant.
Sinon, bon, bah... Exactement. Et qui est très, très vivant, je trouve. Qui est extraordinairement présent, work alcoolique, ça, manifestement. Mais pour notre bonheur, quoi. Je veux dire, je l'ai vu plusieurs fois en scène. Et évidemment, je connais sa discographie par cœur. Et vraiment, pour moi, c'est un espèce de Dieu vivant, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un d'exceptionnel.
Vous l'avez déjà rencontré ?
Non, malheureusement, non. Non. Oh, peut-être pas malheureusement, d'ailleurs. Mais enfin, je suis sûr qu'il doit être hyper sympathique, très, très familier avec les gens, et il a l'air très simple, quoi. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'admire profondément, comme Lennon, d'ailleurs, et comme les deux autres. Mais lui a une espèce de puissance mélodique... incroyable et d'une manière très qui a l'air très simple, enfin je veux dire comme un jeune musicien qui démarre et qui il a cette espèce de côté un jour on lui demandait mais qu'est-ce que vous avez tout prouvé, vous avez plus rien à prouver, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui, il a répondu de refaire un tube. C'est
ça, ouais. Et il est peut-être en voie de le faire là avec Find My Way, on ne sait pas encore.
Oui.
Je vais employer un mot qui ne va pas vous plaire, mais enfin tant pis, je le fais quand même. Vous êtes un peu le patriarche, vous. Je dis ça à l'œil nu parce que dernièrement, c'était à peu près au moment de Noël, vous avez posté une vidéo familiale. Hein. Tout le monde était là, tous les Chédid, Joseph, Émilie, Mathieu, Billy, vous et Anna. Et vous repreniez l'un de vos titres, on écoute.
On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime.
Voilà, c'est votre titre, hein, bien connu, Louis Chédid. Oui. C'est un peu l'hymne de la famille, c'est devenu ça, ce morceau-là ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est fait d'une manière... Quand on a fait la tournée en 2015, tous les quatre, et puis ensuite, on a enregistré un disque, on a enregistré 33 titres en 3 jours. Et c'est vrai que ce titre s'est détaché assez naturellement... c'était aussi la fin du spectacle, donc ça a touché les gens, évidemment, et puis ça parlait de voir une famille comme ça en train de chanter ça, et donc c'est un peu le titre emblème de ce moment-là, de cette tournée et de ce disque.
Alors, il y a plusieurs générations d'artistes, hein, chez vous, et ça ne date pas d'hier. Est-ce que ce lien-là, artistique, musical, il est de relation entre vous, ou alors, comme dans toutes les familles, eh bien, parfois ça pète, on s'engueule, etc.
Ah, sûrement qu'il aide, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est plus une histoire de génération, c'est une histoire de musiciens entre eux qui jouent ensemble, etc. Donc, il n'y a plus justement ce côté générationnel, le père, le fils, la fille, etc. Mais de toute façon, ça n'a jamais été comme ça. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je ne suis pas du tout le paternaliste, et contrairement à ce que peut-être des gens pensent, mais je suis au contraire... Je me sens pas plus supérieur parce que j'ai quelques années de plus, et je pense que mes enfants m'ont amené énormément de choses, c'est-à-dire m'ont fait comprendre des tas de choses, m'ont donné des envies que j'aurais peut-être pas eu si je les avais pas eues. Ça m'a beaucoup élevé, et leur façon de faire, par exemple ce que Mathieu fait, etc. Ça m'intéresse beaucoup, et je regarde comment il fait, et je regarde comme un musicien regarde un autre musicien et l'admire, et le vous voyez, je veux dire, Anna pareil, la voix qu'elle a, etc. Joseph et tout, et ils sont tous ils m'intriguent, quoi, je veux dire, comme je dois les intriguer aussi, hein, donc voilà, on a cette espèce de rapport qui est au-delà du générationnel, il est musical, quoi, et artistique.
Et je précise, Louis Chédid, que vous êtes né un 1er janvier. Hein, alors, ouais, c'est pas très pratique, évidemment, pour les cadeaux. Du coup, c'est
pour le retenir, c'est pratique. Mais pour le retenir, pour la mémoire, c'est bien, parce qu'en fait, quand j'étais petit, oui, effectivement, c'est-à-dire que c'était juste après Noël, donc j'avais. J'avais un seul cadeau pour les deux, pour les deux fêtes. Et ça, j'avoue que c'était frustrant.
73 ans dans 2 jours, ça va ?
Ouais, ça va. Oui, ça va. C'est-à-dire que, vous savez, dans la tête, j'ai tellement encore 15 ans ou 20 ans que... Et comme mécaniquement, ça continue à fonctionner à peu près correctement, tout va bien. Voilà, c'est surtout... C'est quand ça commence à dégénérer au niveau de la mécanique que ça devient pénible, mais là, pour l'instant, ça va.
Tant mieux. Nouvelle pause, André Chédid, et puis on se retrouve, on a encore quelques minutes devant nous. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Louis Chédid avec nous pour quelques minutes encore. Il paraît que je vous ai appelé André il y a un instant. Je suis désolée, Louis Chédid.
Non, mais c'est pas grave. J'avais cru comprendre.
c'est ça.
Non, mais c'est bien. Moi, j'admire André. Alors,
oui, tout le monde admire André, ça, c'est sûr.
C'est un honneur d'être appelé André.
Pardon ?
Non, je dis, c'est un honneur d'être appelé André, c'est bien de...
Absolument. Voilà. Tout ce qu'on veut dans la vie, votre nouvel album en date, qui n'attend lui-même que la scène. Si c'était à refaire, Louis Chédid, est-ce que vous signeriez à nouveau pour cette belle carrière, ou alors vous avez conservé une petite frustration autour du cinéma qui est votre formation initiale ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai plein de frustrations, mais c'est ça qui est bien, justement, c'est ça qui vous donne envie de faire d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire, Le Soldat Rose, par exemple, ce conte musical, c'est parce que j'avais fait Émilie Joly, justement, et je me disais depuis des années, j'aimerais bien faire un conte musical pour les enfants. Mais sans le faire, et j'étais un peu frustré de ne pas y arriver. Et puis un jour, j'ai rencontré un auteur qui s'appelle Pierre-Dominique Burgot, et ensemble, on a pu faire Le Soldat Rose. Voilà, c'est sûr qu'un jour, l'idée de faire un film, un long métrage, c'est quelque chose qui m'exciterait énormément. Mais on ne peut pas être partout, et parfois, je me résous au fait que je ne le ferai pas dans cette vie-là, en tout cas. Mais peut-être dans une autre. On verra.
Ah, c'est vrai, vous croyez à ça, ouais.
Ah, c'est drôle.
Pour de vrai.
Oui, je crois qu'on a mille vies et que le meilleur reste à venir. Moi, je crois à ça, oui. Oui. Et j'ai mis du temps à y croire, hein, je peux vous dire. Mais parce qu'avant, je croyais pas du tout ça. Mais maintenant, oui, je crois à ça, oui. Après, si un jour vous voulez des explications, il faudra une émission de 5-6 heures, mais au moins.
Juste par curiosité, puisque vous n'y croyez pas, et puis un jour, comment est-ce venu alors, ça ?
Ouais, c'est des expériences de vie, si vous voulez. C'est le fait, un jour, de vous retrouver. Moi, j'ai subi ce qu'on. Enfin, j'ai subi. J'étais assez malade à une époque, mais il y a longtemps, il y a 35 ans à peu près, et je me suis retrouvé aux urgences et je me suis décorporé, comme on dit. J'ai eu cette expérience qui s'appelle la near death experience, vous savez là. Mm-hmm. Et voilà. Donc c'est vrai que depuis ce temps-là, je me suis beaucoup intéressé à ça, à ce qui se passe ensuite. Et alors on y croit, on n'y croit pas, mais moi je crois vraiment maintenant aujourd'hui qu'il se passe des choses après. Donc voilà, ça m'intéresse, c'est des sujets qui m'intéressent et je trouve que c'est le grand mystère de la vie, quoi. C'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous donne des idées, qui nous rend créatifs, c'est de ne pas savoir ce qui se passe ensuite. Enfin, donc
c'est intéressant, mais c'est aussi rassurant, non?
Bien sûr que c'est rassurant, évidemment. Évidemment, c'est beaucoup plus rassurant que plutôt de se dire qu'on est une espèce de chose qui va pourrir et puis il y aura plus rien après. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, il y a plein de religions dans lesquelles on vous dit, d'ailleurs, même dans la religion catholique, on parle du paradis, on parle de quelque chose qui se passe ensuite. Mmh. Donc, après, je comprends qu'il y a des gens qui y croient pas, mais c'est l'histoire de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. C'est-à-dire que moi, je préfère la voir à moitié pleine. Au moins, je trouve ça plus rigolo de se dire qu'il se passe des choses après. Et puis peut-être je me serais trompé et que le jour où je quitterai la Terre, je me dirais, oh là là, j'ai fait une connerie. Enfin, je me dirais rien du tout,
parce
que de toute façon, il ne se passera rien. Mais peut-être que je me dirais, dis donc, j'avais raison.
Louis
Chédid, on verra.
Ouais, on verra pas d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais.
Exactement.
En attendant qu'une vie à peu près normale reprenne, si ça veut dire quelque chose, comment occupez-vous votre temps alors? On a compris qu'il y avait un roman sur le feu, et puis quoi d'autre, les petites choses de la vie?
Oui, vous savez, en fait, je veux dire, évidemment, moi, quand je travaille ou quand je compose ou quand j'écris, je suis chez moi et en général, je suis enfermé chez moi, donc je me confine naturellement. Et donc, le confinement n'est pas quelque chose qui m'est désagréable, disons. C'est quelque chose avec lequel je vis toute l'année quasiment. Je travaille sur pas mal de choses, sur un album aussi qui sortira en septembre. C'est qui est un album piano voix où c'est toutes mes chansons, un peu les chansons que vous avez passées tout à l'heure, etc. Mais qui sont complètement dépouillées piano voix comme ça, c'est assez jouissif à faire. Et puis un roman que je dois faire. Et voilà. Et puis, j'espère la tournée qui va reprendre parce que c'est vrai que
c'est ça la grande
affaire.
C'est
vraiment le coït interrompu, ça.
Oui, comme vous dites. Ouais. Merci beaucoup, Louis Chédid, d'être passé par Culture Média. Votre album circule, c'est ça aussi qui est important. Il s'appelle Tout ce qu'on veut dans la vie. Je vous souhaite des concerts dès que possible et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Première
vous
page.
Aussi, au revoir.
Au revoir. Première page pour finir comme chaque jour dans Culture Média. Olivier Adam publiera le 6 janvier son nouveau roman Tout peut s'oublier chez Flammarion. En voici donc la première page. Toutes les chaînes d'infos relayaient l'incident, sans doute n'avait-elle rien d'autre à se mettre sous la dent ce soir-là. Depuis plusieurs semaines, les mouvements sociaux occupaient la une de l'actualité. À la longue, les commentateurs s'essoufflaient. Les spectateurs commençaient à se lasser. Tout était bon à prendre pour changer un peu de sujet. Nathan Forsberg continuait à zapper partout. À un moment ou à un autre, on tombait sur ce type qui apostrophait le président dans la cour de l'Élysée. Personne ne savait comment il avait réussi son coup, comment il était parvenu à s'introduire parmi les journalistes qui couvraient la rencontre. Ce qui, à en croire les voix off, soulevait d'épineuses questions de sécurité. Sur toutes les images, dont seul l'angle de vue changeait, on voyait Emmanuel Macron serrer la main de son visiteur du jour, quand soudain quelqu'un se mettait à crier « Monsieur le Président ! Monsieur le Président !» Les caméras paniquaient un peu, cherchaient brièvement l'auteur de l'interpellation, puis se fixaient. Ah ah ! Il y a quoi derrière ? Tout peut s'oublier chez Flammarion, le 6 janvier, le nouveau roman d'Olivier Adam. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain sur Europe 1 dès 9h. Nous serons en compagnie de Patrick Menet pour le spécial Vue de l'année sur France 3. Nous serons aussi avec l'humoriste Thomas VDB. Et puis cette question reportée, mais qui se pose toujours, comment font les journaux cinéma sans cinéma ? À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Nous, on se retrouve demain 9h. Passez une bonne journée. Bye bye.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.